Vous écoutez RTL.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Le MacPol, le magazine politique de la rédaction de RTL avec Olivier Mazerolle. Bonsoir.
Bonsoir.
Les Français continuent leur grande thérapie collective. 4000 débats déjà organisés, 4000 autres prévus d'ici au 15 mars. Gilets jaunes ou pas, les citoyens ont manifestement envie de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Quelle réponse leur apportera Emmanuel Macron? Ça, c'est une autre question. En attendant, ce grand débat semble lui avoir redonné de l'oxygène au président. On le voit dans le sondage dont vous a parlé Dominique Tenza à 18h. C'est aussi la de François Bayrou, qui était aujourd'hui l'invité du grand jury. On le réécoutera. Parmi les questions qui ressortent de ce grand débat, il y en a une, bon, elle n'est peut-être pas prioritaire, en tout cas, on ne s'y attendait pas. Et si la fin du cumul des mandats était une mauvaise idée? Depuis qu'ils ont dû choisir entre maire et député, certains élus se demandent s'ils n'ont pas perdu le lien direct qu'ils avaient avec les citoyens. Le débat agite la majorité. On va y revenir avec Marie-Bénédicte Allaire. Et puis avec Marie Mollet, on ira voir comment travaille la cellule anti-fake news de La République En Marche, avec les théories du complot, avec les gilets jaunes et la forte affaire pour riposter aux critiques, une façon comme une autre de faire campagne à 3 mois des européennes. Le MacPol, c'est parti jusqu'à 19h.
Le MacPol,
la semaine d'Olivier Mazerolle sur RTL.
Pour commencer, Olivier, on va revenir sur la journée d'hier. Pendant que les gilets jaunes défilaient, Emmanuel Macron était au salon de l'agriculture. Beaucoup pensaient qu'il allait passer une journée difficile, que l'accueil serait hostile. Pas du tout. Je ne dis pas que ça a été une partie de plaisir pour lui, qu'il a fait l'unanimité, mais dans l'ensemble, il a été plutôt bien accueilli. Ça vous a surpris ?
Vous savez, ça confirme ce qu'on observait depuis 2 ou 3 semaines. Emmanuel Macron est de nouveau le recours. Il était frappant de voir hier ses interlocuteurs aller vers lui pour exposer leur désarroi, comme s'il était capable de guérir les écrouelles. Alors évidemment, ce n'est pas le cas, mais c'est un des travers de la Ve République d'amener à croire qu'un homme, fût-il président de la République, peut tout arranger. Et c'est également révélateur de l'état d'esprit de beaucoup de Français. Ils perçoivent ce président de la République comme un homme hors du commun. Et c'est tout naturellement vers lui que l'on se tourne lorsque ça va mal. Ces derniers mois, Emmanuel Macron était en rupture avec les Français. Il n'incarnait plus le prestige de la fonction. Il l'a retrouvé en partie.
Mais c'est un rétablissement spectaculaire, inattendu pour beaucoup de monde. Comment l'expliquer ?
Ça tient à plusieurs raisons. D'abord, les gilets jaunes ont été incapables de profiter de leur popularité. En dehors de la colère, ils n'ont rien présenté de crédible, capable d'entraîner avec eux une majorité. Ensuite, les partis traditionnels, en panne d'idées, sont eux aussi aux abonnés absents. Enfin, Emmanuel Macron y a mis du sien. On l'a vu hier, pas de petites phrases désagréables, et même à plusieurs reprises, une réelle empathie envers ses interlocuteurs. Les mesures qu'il a prises le 10 décembre, même jugée insuffisante, ont fait de l'effet. Ses participations au grand débat ont impressionné. Il est l'acteur politique numéro un. On peut même dire qu'actuellement, il n'y a pas d'autre capable de rivaliser. Il est l'unique recours.
Alors à ce contexte s'ajoute le sondage dont on parlait tout à l'heure dans le journal de 18h. Il place La République En Marche en tête avec 2 ou 3 points d'avance sur le Rassemblement National pour les européennes. Vous diriez qu'Emmanuel Macron tient le bon bout ?
C'est encore fragile, très fragile même. Il lui reste à trouver pour la mi-avril les annonces susceptibles d'être comprises et acceptées par les deux France. Vous savez, la France qui met la priorité sur le pouvoir d'achat et la justice sociale, et l'autre France qui met la priorité sur la baisse d'impôts et les économies de l'État. Ça sera difficile, mais s'il n'y parvient pas, il échouera pour la deuxième fois à justifier l'espoir placé en lui. Et la sanction tombera aux européennes. D'autant plus que sur l'Europe, il lui faut convaincre que la France peut se faire entendre alors que la plupart de nos partenaires ne veulent pas du modèle social et du modèle agricole français. Le regain d'Emmanuel Macron est surtout justifié par le fait qu'il est le seul en lice. S'il manque le rendez-vous de fin de débat, le parachute ne serait pas assez solide pour lui éviter la chute libre.
Olivier Mazerolle. Alors, parmi toutes les propositions issues du grand débat, il y en a une assez inattendue, il faut bien le dire, qui concerne le cumul des mandats. Depuis 5 ans, on le rappelle, un député, un sénateur ne peut plus en même temps être maire d'une commune. Or, selon certains élus, cette loi aurait déconnecté les parlementaires du terrain. Elle les aurait éloignés des préoccupations locales, entendues notamment lors de la crise des Gilets jaunes. D'ailleurs, le 15 janvier dernier, à Bourterroule, devant 600 élus normands, Emmanuel Macron disait ceci.
Sur le cumul des mandats, je vous ai entendu. Ce qu'on est en train de vivre montre qu'on a un besoin de pouvoir sentir ce qui se passe dans le territoire et donc de temps du législateur sur le territoire, beaucoup plus qu'il ne l'a aujourd'hui.
Voilà, ça c'était le 15 janvier dernier. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
Bonsoir.
Du service politique de RTL. La loi qui limite le cumul des mandats date de 2014. Aurait-elle déjà du plomb dans l'aile ?
Écoutez, c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes a renforcé l'impression que les élus ne comprenaient pas leurs concitoyens, ce qui redonne de la voix aux partisans du cumul des mandats. Et parmi eux, on trouve surtout des élus ruraux, comme Benoît Simian, député La République En Marche de Gironde, et ancien maire de Ludon-Médoc, 5000 habitants.
On franchit toujours plus facilement la porte du maire que la porte du député. Donc avec les événements que nous avons vus connus dans le pays ces derniers mois, en effet, les profils d'anciens maires que nous sommes, parce que c'était il y a quelques mois, nous sommes encore bien ancrés sur les territoires, nous avons ces relais précieux, il faut les cultiver. Les collectivités travaillent sur le quotidien de nos concitoyens et sont en lien permanent avec les administrés.
Et c'est ce lien très fort qui a permis à son collègue Christophe Géréti, en marche lui aussi, député de Corrèze, ancien maire de Nave, de 1500 habitants, mais toujours membre du conseil municipal, d'être un des tout premiers à alerter sur les 80 km/h.
Il y a beaucoup de décisions comme ça qui sont psychologiques et on aurait été plus nombreux à dire attention, il y a des choses, voilà, on aurait été tous maires. Je suis convaincu qu'il y a des choses qu'on aurait fait différemment. Pas sur les grandes décisions économiques, parce qu'on est tous d'accord sur ce qu'on avait à faire, mais par contre sur des détails qui ont un impact vis-à-vis de la population, c'est souvent ça qui touche.
Autre avantage, selon Christophe Géréti, quand on a été maire, on voit mieux quel impact les lois votées auront sur le terrain.
Alors, privilégier le mandat de député, ça signifie vraiment qu'on est coupé des électeurs ?
Pas forcément, à en croire Patrick Mignola, député Modem de Savoie et ancien maire de Laravoir.
Moi, j'étais maire d'une commune de 8000 habitants, j'ai la nostalgie tous les jours de ma commune. Mais j'ai fait le choix d'être député. Et ça ne m'empêche pas de continuer à voir les gens au quotidien quand je me promène avec ma femme et mon fils au marché de Chambéry tous les samedis.
Il y a aussi ceux qui, comme Sandra Motin, députée de l'Isère, La République En Marche, n'ont jamais été élus locaux, ce qui n'empêche pas, selon elle, d'être en prise directe avec ses concitoyens.
C'est vrai que je ne coupe pas tous les rubans, que je ne suis pas forcément dans toutes les fêtes des associations, mais par contre, j'ai fait beaucoup plus de réunions citoyennes et de réunions de travail sur les textes que mon prédécesseur n'en a fait en 31 ans, je pense.
Pour elle, le mandat de maire est d'ailleurs trop prenant pour pouvoir bien remplir en même temps celui de député.
Pourtant, Emmanuel Macron lui-même, on l'a entendu, a ouvert la porte à une réflexion sur le cumul des mandats, en particulier pour les petites communes.
Pour des villes jusqu'à 5 ou 10 000 habitants, par exemple, c'est ce que proposent les partisans du retour du cumul. Le débat est légitime, reconnaît Patrick Mignola, avec toutefois un sérieux bémol.
La condition préalable, c'est que si on doit revenir au cumul des mandats, il ne faut pas de cumul d'indemnités. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est ça qui, avant tout, effraie les Français et énerve les Français, c'est de se dire qu'il peut y avoir des cumuls de mandats uniquement pour avoir des cumuls financiers.
Tout est suspendu aux conclusions du grand débat. Une chose est sûre, même si la règle devait être assouplie, elle serait très encadrée et on ne reviendrait pas à la situation antérieure.
Merci Marie-Bénédicte Allaire. Un petit commentaire, Olivier ?
Oui, ça montre tout simplement que lorsque des décisions sont prises sous la pression de l'opinion publique, parfois on est amené à réfléchir et à se dire que c'était pas exactement, peut-être exactement comme ça qu'il fallait faire. Comme quoi, il faut se méfier des emportements.
Je croyais que vous alliez dire de l'opinion publique. Quand même pas.
Non, dans un instant. En général.
Dans un instant, retour sur le grand jury de François Bayrou.
RTL dimanche soir.
Le Mac Paul avec Philippe Robuchon.
François Bayrou était l'invité du grand jury aujourd'hui sur RTL. Le président du Modem s'est tout d'abord démarqué de son amie Jacqueline Gourault. La ministre proposait ce matin dans le journal du dimanche de faire payer l'impôt sur le revenu à tous les contribuables. Une réforme fiscale, ça ne s'improvise pas, a dit François Bayrou. Il a donné raison à Matignon, qui a dit que cette piste n'était pas à l'étude. Et puis, François Bayrou a forcément été interrogé sur le regain de forme d'Emmanuel Macron, dont on parlait il y a un instant. Regain de forme qu'il attribue essentiellement à la réussite, pour l'instant, du grand débat. François Bayrou.
Je pense que le grand débat a été une opération formidable de rétablissement de la stature et de la personnalité du président de la République aux yeux des Français. Pourquoi ? Parce qu'il est de bonne foi. Vous savez, les écrans de télévision ne mentent pas. Ce que les Français voient quand Emmanuel Macron parle avec leurs concitoyens, au salon de l'agriculture, avec un retraité, avec ce jeune, ça m'a tellement ému dans la réunion des jeunes, ce jeune dyslexique. Et là, si vous regardez son regard, c'était un regard ému de vérité. Pas pour faire semblant, il n'y a pas de communication dans tout ça. Et donc, oui, au début de l'automne, moi j'étais très inquiet parce que je voyais bien que les Français ne reconnaissaient pas ou ne reconnaissaient plus le président de la République.
Et ce lien s'est retissé, vous diriez, aujourd'hui.
Et ce mouvement démocratique-là, parce qu'il a été au contact direct des Français, a changé ce statut du président de la République.
Vous-même,
cette
votre
réalité
regard a changé.
Du président
vous-même,
de la République.
Vous avez retrouvé le...
Non, parce que j'ai toujours su, cru et dit que c'était comme ça qu'il était profondément. Je considère que, grâce au grand débat, qui était une opération infiniment audacieuse et juste à mes yeux,
ça va mieux.
Il a repris sa place auprès des Français. C'est pas fini, parce que je sais que, je crois qu'il a en lui le potentiel pour aller, j'allais dire, redevenir, c'est inexact, pour devenir enfin le président de la République que les Français attendaient depuis longtemps. Parce que c'est vrai que son élection a été une surprise, on y a participé, tout ce que vous avez rappelé. Il demeure que l'attente des Français, elle est encore extrêmement pressante.
Et vous croyez qu'il peut faire un second mandat, président de la République
ou c'est j'entre pas dans les considérations électorales. Donc voilà, je pense qu'il a repris cette place et qu'il peut aller beaucoup plus loin. Parce que profondément en lui, il y a ce qu'il faut. Deuxièmement, il y a une contestation profonde qui n'est pas une contestation uniquement française. Il y a une contestation profonde sur le projet de société de notre pays. Les Français ont un sentiment que j'ai souvent traduit, l'idée que notre modèle de société, il est, comme les autres, au service des puissances dominantes de la planète et notamment de la force du capitalisme financier. Sans frontières, sans freins, et qu'il y a dans la vocation de la France le besoin infini d'équilibrer cette puissance réelle, ô combien, du capitalisme financier par un projet qui soit un projet de justice.
Le MacPol, RTL dimanche soir.
Benjamin Sportouche, RTL, Guillaume Roquette, Le Figaro, Adrien Gindre, TF1 LCI. Bonsoir messieurs, c'est vous qui avez animé ce grand jury de François Bayrou. Alors, on aura compris son credo aujourd'hui au grand jury. Il estime que le grand débat a définitivement relancé Emmanuel Macron.
Adrien, c'était le cri de François Bayrou aujourd'hui. Moi, je pense que c'est un cri un petit peu prématuré tout de même. Il n'a pas l'air de constater qu'il y a encore plus de 40 000 personnes qui étaient dans la rue hier, de la contestation sur le plan politique. Et puis, dans les sondages, d'accord, Emmanuel Macron est un petit peu remonté. C'est une embellie par rapport à ce qu'il a connu il y a quelques semaines. Mais il est quand même très très loin de convaincre une immense majorité des Français. On n'a pas retrouvé le Emmanuel Macron de 2017. Alors oui, la situation est moins mauvaise. De là à dire que tout est gagné pour le président, moi je pense que François Bayrou s'avance.
Peut-être qu'il le sait d'ailleurs. Peut-être qu'il est juste dans une position tactique. Peut-être qu'il gère son bas de laine. Il a une situation très confortable, François Bayrou, parce qu'il est un des piliers de la majorité. Il a l'oreille d'Emmanuel Macron. Donc, il donne juste suffisamment de compliments pour rester dans le jeu. Et puis, il n'est pas trop concret dans ce qu'il faut faire, parce qu'il dit « Ah, ça va être ce grand débat, l'occasion de tout remettre à plat. » Et puis, comme ça, il reste un central dans le dispositif. On a quand même l'impression qu'il ne veut surtout pas prendre de risques, y compris en ayant un diagnostic sur la réalité de la situation qui, effectivement, est quand même sérieuse pour le président.
Benjamin. C'est un peu la méthode Coué quand même aussi hein, pour François Bayrou. Hein. Ça a été son poulain depuis 2 ans et il ne veut surtout pas se dédire. Il y a quand même beaucoup de points sur lesquels il pourrait s'affranchir bien plus qu'il ne l'a fait aujourd'hui. Je pense encore à l'affaire Benalla, qui est tout sauf la République exemplaire qu'il portait pendant la campagne présidentielle. Donc il se convainc lui-même que ce président de la République est l'homme qu'il faut pour le pays parce que, en fait, finalement, qui y a derrière ? François Bayrou. C'est un peu, il nous parle un peu de son double, parfois, j'ai l'impression.
Il y a encore l'homme qui donne quelques conseils sur Benalla. Il dit quand même, il faudrait quand même en tenir compte sur la fiscalité. Il dit, ce serait pas mal une grande réforme fiscale. Il instille quand même des petites idées, comme si c'était effectivement lui qui pouvait un peu tirer les manettes.
C'est son fils spirituel.
Voilà. Mais il s'agace un peu dès que vous lui demandez des propositions.
Exactement. Mais parce que voilà, il pense que jusqu'au bout de ce quinquennat, il aura une influence sur ce président qui, par son jeune âge, porte ce qu'il n'a pas pu porter au sommet de l'État. Il reste son mentor.
Le seul point sur lequel il est concret, c'est sur l'ISF où en gros il dit on a déduit trop de revenus de l'impôt sur la fortune, plus exactement trop d'éléments du patrimoine. Lui dit il faut juste que soit dispensé d'ISF les investissements dans les entreprises françaises et donc il préfigure une espèce de recadrage pour que la part du capital qui échappe à l'impôt soit plus réduite.
Un petit commentaire sur l'info du jour, Jacqueline Gourault dans le JDD, qui dit qu'il faut faire payer l'impôt sur le revenu à tous les contribuables. On sait qu'il est proche de Jacqueline Gourault. Matignon a dit que ce n'était pas du tout le moment. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore un ballon d'essai qu'on lance comme ça?
Bien, visiblement, oui. On a tous les ministres. Alors, les ministres sont censés apporter leur contribution personnelle au débat. Alors, on a Jacqueline Gourault qui le fait, avec toute sa spontanéité. Hein. Après tout, pourquoi pas elle, hein, même si elle est peu connue. Et elle est recadrée aussitôt par Matignon. Alors, il y a certainement des choses pas très claires derrière. Est-ce que l'interview a été relue? Visiblement.
Spontanéité dans une interview de presse écrite.
Exactement. Normalement, c'est relu par Matignon. Donc, visiblement, ça a été cadré avant qu'elle ait été recadrée. Tout ça est quand même très flou. Mais je trouve quand même qu'en l'occurrence, François Bayrou, où Jacqueline Gourault est une amie, bien il la soutient pas, il a porté cette idée pendant le débat. Bon, et ben là aussi, pour ménager le président de la République, pour pas aller à l'encontre de l'Élysée, pour montrer que lui, et bien c'est l'homme de la parole donnée et que c'est lui qui donne le cadre avec le président de la République, et bien il s'éloigne de son ami de toujours.
Et puis il y a une espèce de coquetterie chez François Bayrou. En gros, il dit le seul qui est de mon niveau, c'est Macron, donc voilà. Lui a toutes les qualités. En revanche, les ministres, ouais. Que ce soit Jacqueline Gourault ou bien Jean-Michel Blanquer, dont il a en gros expliqué que l'idée de mettre des drapeaux dans les classes était un truc superficiel. Là, il est tacle assez volontiers. Quant au Premier ministre, on ne peut pas non plus dire qu'il déborde d'affection pour lui. Donc, il est quand même très, très surplombant.
Il a quand même dit du bien d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, pour dire que pour les Européennes, effectivement, elle peut cocher certaines cases.
C'est même pas le Premier ministre alternatif, hein, c'est le président bis, parfois.
C'est ce que j'allais vous dire.
Parfois, l'impression d'avoir le double d'Emmanuel Macron, quoi, en plus âgé. Voilà.
Bon, ça va sans doute se compliquer à partir du 15 avril, quand il faudra donner des réponses au grand débat. Hein. On verra ce qu'en dit François Bayrou à ce moment-là. Merci Benjamin Sportouche, RTL.
Merci
Adrien Jean, TF1 LCI. Merci Guillaume Roquette, Le Figaro. Olivier, vous avez écouté le grand jury, François Bayrou, un commentaire?
Oui, alors je trouve que le professeur Bayrou, très indulgent, selon nos confrères, est parfois très sévère. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Emmanuel Macron pourrait redevenir, et puis là il se reprend et dit non, devenir le président que les Français attendaient. Ça veut donc dire que pendant 18 mois, y compris pendant la première année où il semblait être dans les nuages, dans les hautes sphères, Emmanuel Macron n'était pas le président que les Français attendaient. Et pourquoi Bayrou le dit? Parce que la France, c'est la volonté de rééquilibrer la puissance du capitalisme financier par une politique de justice. Ce que n'a pas fait Emmanuel Macron, ça c'est quand même un sacré tacle.
Oui, devenir, redevenir, il y a des lapsus parfois révélateurs. Olivier, vous avez forcément entendu cette semaine, on en a parlé sur RTL, les résultats d'une étude passionnante qui a révélé l'ampleur, les ravages, on devrait dire, des théories du complot chez un grand nombre de Français. L'attentat de Strasbourg, qui serait une manipulation du gouvernement, la nocivité réelle des vaccins, qui serait cachée avec la complicité des laboratoires pharmaceutiques, et même, je n'invente rien, les traînées blanches derrière les avions, qui serait en fait un épandage de produits chimiques, toujours évidemment avec la complicité du pouvoir. Tout ceci est révélé dans une enquête de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, enquête qui révèle que les plus perméables à ce genre de théorie, ce sont les électeurs de Marine Le Pen. Alors, ce n'est pas précisément et uniquement pour convaincre ces électeurs-là, mais des marcheurs ont mis en place une cellule dont l'objectif est de répondre à toutes sortes d'affirmations, notamment celles reprises par certains gilets jaunes. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Vous avez rencontré cette semaine le responsable de cette cellule.
Oui, on a rendez-vous au QG de campagne du Parti pour les Européennes. C'est là que se trouve cette cellule anti-fake news, un intitulé choc. Sept personnes chargées d'éplucher Facebook, YouTube ou Twitter. Première étape, repérer les fake news qui nuisent au parti, au programme, à la tête de liste. Les choisir en accord avec le directeur de campagne, puis pousser les militants à y répondre massivement. Travaux pratiques avec Pierre Le Texier, responsable de l'influence de LREM sur les réseaux.
Attendez, je vais aller sur un groupe gilet jaune, par exemple. Qu'est-ce qu'on voit là? Ça, par exemple, ça me paraît bizarre. Là, on a une vidéo en face de nous, en fait. Cette vidéo va nous montrer que le passage à l'euro a entraîné une perte, en tout cas, du pouvoir d'achat énorme. Et on voit effectivement des chiffres qui nous expliquent plus 64%. Et puis, en plus, on finit, toujours un peu de démagogie, c'est bien, sur le salaire des grands patrons du CAC 40. Ça, pour moi, il faut que j'y réponde, quoi. Bon, oui, ça nous fait perdre des voix. C'est une remise en cause directe derrière de l'Union européenne.
Et ensuite, il cherche sur Google des chiffres établis, des articles, et il rédige sa réponse.
Attention aux nombreuses rumeurs. Les chiffres de la vidéo sont faux. Et j'ai copié-collé un article de la Tribune, donc « Euro et inflation, mythe et réalité », qui fait le point sur cette idée, je poste. J'indique pas que je suis en marche. Après, si la personne me dit « t'es marcheur », etc., je vais pas lui nier, hein, évidemment, mais...
Alors en fait, vous avancez masqué.
J'avance pas masqué, j'avance avec mon profil personnel. Et on va demander aux gens d'utiliser leur profil personnel, c'est important en fait. Faut pas y aller en mode « on a raison, vous avez tort, vous connaissez rien à la vie, machin ». Non, non, ce serait là, on se tirerait une balle dans le pied.
Et si le marcheur est démasqué?
Il faut accepter de perdre de temps en temps. Un marcheur sera viré, ben un autre arrivera, quoi, c'est tout, c'est pas grave.
Alors la cible, c'est ce que le parti appelle les gens de bonne foi, pas les irréductibles, plutôt ceux qui se seraient naïvement laissés abuser par une infox, propagée par d'autres mouvances, d'autres pays, d'autres partis, en particulier l'extrême droite au sens large.
Pourquoi ? Parce que l'extrême droite, Marie, c'est la cible numéro un ?
Oui, parce que le Rassemblement National, c'est le principal concurrent pour les européennes, en particulier sur le terrain des réseaux sociaux. Laurent Jacobelli est délégué national du parti de Marine Le Pen. Pour lui, cette cellule n'est rien d'autre qu'un outil de propagande de l'Élysée.
Fake news pour la Macronie, c'est en fait une nouvelle qui ne correspond pas à leur analyse de la situation. Donc ça laisse un peu présager que quand on n'est pas du même avis que le président, on est dans la fake news, ce qui ressemble un petit peu à la Pravda. On a vu que des conseillers du président récemment avaient été pris la main dans le pot de confiture en train de mentir au Sénat. Comme gage de garant de la vérité, je crois qu'on a connu mieux.
Sauf que le Rassemblement National oublie qu'il s'était doté de sa propre brigade anti-fausse information en 2014, le décodeur bleu marine. C'est toute la limite du fact-checking militant, une vérité partisane à géométrie variable.
Un reportage de Marie Mollet. Olivier, il est 18h58. On a quelques secondes pour parler d'un des événements de la semaine. Demain, Emmanuel Macron reçoit son homologue irakien Bahram Saleh. C'est important parce qu'ils vont parler du retour des djihadistes.
Ben voilà, les djihadistes, qu'en faire ? La France voudrait que ce soit les Irakiens qui les jugent. Donc ça suppose un accord entre les deux pays, étant entendu que la France ne veut pas qu'ils soient condamnés à mort, mais retenus sur place.
On va suivre ça. Merci Olivier Mazerolle pour ce MacPol. Dans un instant, les titres de 19h. Juste après, on aura les dessous de l'écran avec deux choses ce soir. On va parler d'un documentaire exceptionnel sur France 5 ce soir. Documentaire lié à l'actualité puisqu'il parle du racisme et de l'antisémitisme. Puis on va évoquer également le transfert probable de Soir 3 sur la chaîne France Info, canal 27. Surprise des téléspectateurs et surtout, ça fait râler la rédaction de France 3. Juste après, on aura Autoradio avec Christophe Bourreau. On va parler de la voiture à hydrogène. À tout à l'heure.
Vous écoutez RTL.